Il est canadien, il est né en 1932 à Montréal, mais il vit en France depuis de nombreuses années. Après avoir consacré sa vie au cosmos, il est aujourd'hui engagé pour la préservation de l'environnement. Hubert Reeves, président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité et de l'Agence française pour la biodiversité, de l'immensité de l'espace à la place microscopique de notre planète dans l'univers, le parcours d'Hubert Reeves reste ancré dans les différentes dimensions de la nature. Les éditions du Seuil publient « Je chemine avec Hubert Reeves », des entretiens de Sophie Huillier, au cours duquel il revient sur la thématique écologique. Il est mon invité dans un instant. Il sera également le parrain d'une nouvelle série de conférences que France Inter vous propose à partir du mois de novembre au Studio 104 et dans une centaine de cinémas en France pour parler justement de la planète. Vos questions à Hubert Reeves pour parler environnement et écologie, 01 45 24 7000, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Avec votre pull vert pour passer au vert dans un instant.
C'est mon côté corporel. Je me suis intéressée aujourd'hui au fameux bilan carbone.
Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Agnès, une auditrice de Nantes qui va nous parler de son association qui s'intéresse à la cuisson écologique. Le feuilleton de la semaine avec le dernier reportage de Célia Quiret sur les villes zéro carbone. Nous serons au Menet, une commune des Côtes d'Armor qui tente d'être autonome en énergie grâce à des éoliennes. Et puis enfin, notre invitée découverte va nous parler des tournages de films et des productions télé qui, elles aussi, font leur transition écologique. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré, réalisée par Valérie Ayestaraï, avec à la technique Léo Pringer et Grégory Wallon.
Mathieu Vidard, la Terre au carré, sur France Inter.
Bonjour Hubert Reeves.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Les éditions du Seuil publient ce livre d'entretien mené par Sophie L'Huillier dans la collection Je chemine, un ouvrage dans lequel vous parlez de votre amour immodéré pour la connaissance et pour la transmission du savoir. Et puis au fil des pages quand même, on vous entend nous parler de nature et d'environnement. Est-ce que d'abord, parce qu'il y a cette photo de vous enfant qui je trouve est très touchante, parce
c'est vrai.
On retrouve votre visage. Vous êtes en train de nager dans un lac québécois là ?
Oui, le lac Saint-Louis pour être Montréal.
Vous avez quel âge sur cette photo ?
Oh, je dois avoir une dizaine d'années, j'imagine, autour de 10 ans, oui.
Est-ce que selon vous, les Québécois, justement, ou les Canadiens, hein, qui vivent dans un espace, dans un territoire extrêmement vaste, où la forêt a une place majeure, ont un lien plus fort que nous à la nature ?
Je dirais un lien peut-être différent. Un lien différent parce que cette notion de ces fameux grands espaces, cet amour de ces régions qui sont dans lesquelles la nature parle fort est très important là-bas. Alors, il y a des choses positives et négatives. Il y en a ici en France. Mm-hmm. C'est pas les mêmes, mais je dirais pas que les Canadiens sont plus actifs ou plus dynamiques sur ce plan. Je crois que les deux pays ont leur promoteur, leur personne qui s'en occupe.
En tout cas, vendredi dernier à Montréal, 500 000 personnes se sont réunies pour la marche pour le climat.
Oui.
Là, ils ont été beaucoup plus forts que les Français, parce que nous, il y a eu à peine 20 000 personnes en tout. C'est assez désespérant de voir le peu de mobilisation en France, alors que chez vous, au Québec, là, ça a été incroyable.
Oui, c'était un événement formidable. C'est dépassé toutes les espérances, la puissance de ce... Il y a quelque chose de présent dans cette réaction, dans un sens peut-être plus émotive au Canada qu'en France, ça je pense. Mais en France, il y a énormément de mouvements, ça bouge partout. Et c'est la grande bonne nouvelle, c'est de voir que ces dernières années, on est passé d'une étape plus intellectuelle, où on constatait une étape plus dynamique, où on veut faire des choses. Et que le motto le plus important aujourd'hui à mettre en évidence et à répéter, c'est il faut tout faire pour que la Terre reste habitable. C'est, je crois, habitable et agréable.
Oui. C'est d'ailleurs, je crois, quasiment la dernière phrase de votre livre, en tout cas sur votre préoccupation à vous aujourd'hui, la cause que vous souhaitez défendre et qui s'impose, dites-vous, c'est garder la Terre habitable et agréable à vivre. Ce sont les tout derniers mots du livre.
Oui, c'est ça. Et d'ajouter agréable est important aussi.
Oui.
Pas simplement habitable, mais qu'il y a quelque chose d'agréable, comme nous avons en ce moment, parce que les menaces sont telles que ce n'est pas évident.
Ouais. Comment vous expliquez justement qu'aujourd'hui, finalement, on entend les scientifiques qui nous disent quand même les mêmes choses depuis des décennies, hein, parce que c'est cette histoire de menaces sur la biodiversité en particulier, sur le climat, ça ne date pas d'aujourd'hui. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, finalement, nous les entendions ?
Le problème, c'est que pour que des choses graves soient entendues, il faut qu'il y ait quelques problèmes, et un problème grave. Mmh. Il y a cette habitude humaine de casser le thermomètre quand on a de la fièvre. C'est-à-dire, on ne veut pas savoir, et il faut vraiment que ça fasse mal, c'est ça le problème, il faut vraiment que ça fasse mal pour qu'on devienne dynamique. Mmh. Et ça s'appelle au Québec le PFH. Vous savez ce que c'est le PFH ?
Qu'est-ce que c'est ?
C'est le putain de facteur humain. C'est le mot qui explique le plus de choses, bien qu'il n'explique rien. Mais tout le monde comprend ce qu'on veut dire.
Oui.
Il y a cette espèce de réticence à voir en face la réalité. Et quand en face, on voit que la réalité, en tout cas que les pronostics, en tout cas que les menaces sont graves, on a tendance à dire « Oh, on va penser à autre chose. Mmh. » Et il faut qu'il y ait 3 morts à un coin de rue avant qu'on décide de mettre un feu rouge. Ça, c'est le grand problème des humains. C'est confortable, on est bien. Aujourd'hui, on n'a pas de problème majeur, si on en a même pas.
Ouais.
Et donc, on préfère ne pas regarder devant et dire « continuons ». Et c'est cela aujourd'hui qui nous est forcé et que, heureusement, qui évolue très rapidement. On a vu ces dernières années la quantité d'éveil de la cause écologique devenir vraiment importante, à tel point qu'on peut commencer à avoir l'espoir. Mmh. Moi, c'est ce que je vois, c'est cette chose positive. Il y a maintenant une telle puissance de présentation, d'évolution, d'activité, qu'on peut se dire. Moi, je vois la situation comme ceci. Aujourd'hui, on me demande souvent, est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va mal?
Mmh.
Je dis les deux. Il y a à la fois une puissance de détérioration qui continue et une puissance de restauration qui également qui prend de la puissance. De sorte qu'on peut dire que nous sommes dans une lutte de plus en plus tendue entre deux forces et personne ne sait, ne connaît l'avenir. Première chose à dire, ceux qui disent c'est foutu, je crois qu'ils ont tort parce qu'il suffit de dire cela que personne ne sait vraiment.
Oui.
L'avenir est inconnu. Pour que la situation se détériore. Il faut regarder la situation en disant, il faut pas être ni optimiste ni pessimiste, mais déterminé. C'est à la mesure de notre détermination, même si on sait que peut-être ça marchera pas, mais peut-être ça marchera. C'est ça qui est tout l'espoir, c'est là qu'on met le dynamisme. C'est peut-être que ça va marcher, peut-être qu'on va garder la Terre habitable, peut-être qu'on va même la garder agréable.
Ouais, vous entendez Camille, il y a de l'espoir. Ça fait bien ce que Camille hier est descendue ici dans le bureau, le moral dans les chaussettes, en disant j'en peux plus.
J'en peux plus, j'ai l'impression que rien ne va, rien ne suffit jamais.
Voilà. Donc ça le fait du bien de vous entendre aussi Hubert Yves.
Oui, mais je crois que c'est important. C'est en autant qu'on sera dynamique, qu'on décidera, qu'on voudra, qu'on sera fort, que c'est notre principal atout. Et un autre atout, c'est de dire que cette lutte-là n'est pas nouvelle. Cette lutte pour sauver la planète, elle commence, les premiers qui se sont occupés de s'occuper de la nature, c'est 1875. Mmh. C'est aux États-Unis.
Vous citez John Muir, hein, souvent.
Oui,
hein.
John Muir.
Le réveil vert. Hein.
Le réveil vert.
Ouais.
Et le début des législations, par exemple. Les premières législations pour sauver la planète, c'est 1875. C'est au moment où on cesse de déplorer, ça fait plusieurs milliers d'années que des êtres humains se rendent compte du fait que leurs collègues se conduisent pas très bien. Pythagore, ça fait 2000 ans,
oui.
Est déjà en réaction contre cela. Mais pendant tout ce temps, on ne voit pas d'activité de prise en charge. On voit des gens qui déplorent, mais la prise en charge, les premiers, c'est en Californie. C'est là où se fait le parc de Yellowstone, Yosemite. C'est là où on fait les premières législations. C'est là où on commence à avoir des congrès qui donnent lieu éventuellement à Rio ou à d'autres congrès. Eh bien, je crois que c'est important de se sentir dans une lutte qui est active depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on participe à un effort et cet effort a déjà eu des résultats intéressants.
Ouais.
Par exemple, je lisais l'autre jour dans la Nature qu'on vient de sortir de la lutte des animaux menacés d'extinction, les baleines à bosse. Mmh. Eh bien, les baleines à bosse, au 19e siècle, on en tuait 30 000 par année, à tel point que la plupart des biologistes considéraient que les baleines, il n'y avait aucune chance. Avec le raffinement avec lequel on les chassait, ils n'avaient aucune chance de s'en tirer. Eh bien, avec la commission baleinière, ils ont fait un travail excellent. Et aujourd'hui, c'est un aspect qui est sauvé.
Ah oui, vous êtes vraiment un indécrottable optimiste, hein, quand même, Hubert Reeves. Mais c'est bien de voir le verre à moitié plein, comme vous le faites, finalement.
Oui, oui, je reconnais.
On en a besoin en ce moment.
Oui, c'est ça. Je crois que l'élément important, c'est la réaction et le dynamisme et la force de la volonté de dire on va garder cette planète habitable. Que ça devienne, sur ce plan, une attitude, pas simplement une opinion, une attitude qui implique les émotions, qui implique on ne peut pas laisser cette situation se détériorer. Il faut réagir et c'est à ce prix qu'on va être capable d'avoir de la réaction. Et ce qui est encourageant, c'est que cette réaction, cette restauration, cette puissance de restauration prend de la force et ces années-ci, vraiment, c'est fantastique.
Bon, ben on va voir si les auditeurs de la Terre au carré sont aussi optimistes que vous. En tout cas,
ils
vont.
Je ne sais pas si je suis optimiste ou
pessimiste. Bon, en tout cas, ils vont dialoguer avec vous dans un instant, 01 45 24 7000, et puis sur les réseaux sociaux et franceinter.fr. Je chemine avec Hubert Reeves, ça paraît au seuil, et vous êtes notre invité cet après-midi.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, vous nous parlez bilan carbone aujourd'hui.
Eh oui, ça fait rêver, je sais. Hein, bilan carbone, empreinte carbone, impact carbone, la neutralité carbone que l'Union européenne en particulier s'est donnée pour objectif d'atteindre en 2050. En fait, ce sont surtout des termes qu'on entend de plus en plus, mais que nous, le peuple, avons encore bien du mal à définir précisément.
Le bilan carbone, bah non, je saurais pas dire exactement ce que c'est.
Pour blaguer, ouais, avec des amis, on dit bah ouais, le bilan carbone, il est pas bon, et puis. Honnêtement, après, j'ai pas été réfléchir au-delà de ça, ce que ça voulait dire, ce que ça représentait réellement le bilan carbone.
Bilan carbone, ça veut dire que les entreprises sont propres, c'est ça ?
Alors non, pas tout à fait, même si elles affichent tout en gros hein, qu'elles réduisent leur bilan carbone, un peu comme un nouveau slogan à la mode, mais je vais y venir. D'abord, on continue un peu de chercher.
C'est toutes les émissions de chauffage, de voiture, je vois quelque chose comme ça, et qui est une pollution dans l'air.
Le bilan carbone, c'est par rapport à la pollution.
C'est-à-dire ?
Les voitures, les pots d'échappement, je pense.
C'est l'ensemble de tous les éléments qui peuvent polluer l'atmosphère et tout ça, j'imagine.
Pour moi, le bilan carbone, c'est en gros le taux de carbone que ma consommation émet dans l'air.
Oui, alors, il y a de l'idée des indices, mais c'est quand même pas facile. D'ailleurs, tiens, vous le définiriez comment, vous, Mathieu, le bilan carbone?
Bah, c'est ça, c'est le CO2, les rejets de dioxyde de carbone, par exemple.
C'est pas très précis, tout ça. Enfin, bon, en même temps, on essaye, hein, parce que j'ai croisé un groupe d'étudiantes en première année d'optique pas très captivées.
Vous savez ce que c'est que le carbone?
C'est une particule.
C'est pire que les contrôles, là.
C'est une particule toxique, le carbone, non, c'est ça?
On s'en fout un peu.
Je me suis jamais demandé.
Pourtant, il paraît que les jeunes sont super à fond sur l'écologie.
Non, ça y est, c'est la mode, ils font des punchlines et tout, mais...
Alors, ça les a clairement pas accrochés. Donc, le carbone, déjà, c'est quoi? Eh bien, c'est un élément naturel, chimique, qui peut prendre différentes formes. C'est grâce à lui, par exemple, que les arbres grandissent. Et quand il est sous forme de gaz, eh bien, c'est lui, le fameux CO2, le dioxyde de carbone, qui fait partie des gaz à effet de serre. Rejeté dans l'atmosphère, c'est mal par les activités humaines, car absolument tout ce qu'on fait a une empreinte carbone. Alors là, vous me regardez avec de grands yeux, Mathieu. Vous vous dites, je me suis transformée en experte. Mais pas du tout. C'est Roman Ledoux, ingénieur spécialiste de l'énergie chez Carbone 4, qui m'a tout expliqué ce matin.
Lorsque, par exemple, vous achetez sur Internet, il a fallu construire des usines pour la logistique. Il a fallu construire des camions pour transporter vos produits. Il a fallu fabriquer les usines pour fabriquer les camions. Et donc, c'est l'ensemble de ces flux-là que le bilan carbone va permettre d'approcher.
Donc, absolument tout ce qu'on fait aujourd'hui a une empreinte carbone. C'est-à-dire que là, même notre coup de téléphone, c'est une empreinte carbone.
Exactement. Notre coup de téléphone, il passe par des sites mobiles qui sont gérés par les opérateurs. Et ces sites mobiles, ils consomment de l'électricité. Il faut savoir que l'empreinte carbone d'un Français, c'est environ 11 tonnes de CO2 par an. Il faudrait être à 2 tonnes en 2050. Ça, c'est l'objectif pour que la Terre, finalement, retrouve un équilibre.
2 tonnes par personne.
2 tonnes par personne, voilà, exactement.
Alors, moi, je veux bien essayer de réduire mon empreinte carbone, mais comment je fais, hein, parce que c'est très difficile de calculer cette empreinte carbone.
On essaie de faire le moins de déchets possible, de fabriquer notre lessive, de faire... Là, ça passe par des petites choses du quotidien. Mais effectivement, je connais pas l'unité de mesure, en fait. C'est quoi le bilan carbone? On veut acheter une voiture, on me dit ça émet ça, d'accord. Mais concrètement, je sais pas.
Et d'autant que même les voitures électriques propres, donc, ont dû être construites dans des usines avec des matériaux venus parfois du bout du monde. Bref, on s'en sort plus.
Je pense que oui, en fait, il faut qu'il y ait une transparence totale sur ce qu'on achète.
Alors certains affichent le bilan carbone de votre trajet, par exemple pour la SNCF ou la RATP. Il y a aussi une entreprise suédoise qui veut lancer une carte de paiement permettant de visualiser les émissions de CO2 de tous ses achats et même de bloquer les paiements si on dépasse un certain seuil. Chez Carbon 4, il devrait l'été prochain sortir une application qui fait le calcul pour vous à condition que vous y rentriez tous vos faits et gestes, il faut le vouloir.
En une journée, je pense que si on fait le calcul, il y a à peu près 100 gestes qui vont émettre des émissions de gaz à effet de serre. Donc dans un premier temps, on va faire un tri, c'est-à-dire on va cibler les postes qui ont plus d'impact, mais en essayant d'aller un peu plus loin que juste l'avion et la viande rouge.
Alors avec des outils également pour s'y retrouver dans la jungle du fameux greenwashing, parce que sachez-le, le zéro carbone n'est pas si zéro que ça. Et pendant ce temps-là, eh bien, la Terre fait son boulot, elle s'adapte en se réchauffant.
Voilà, Camille Passauvert à réécouter sur franceinter.fr. Et puis on parlera bilan carbone de l'industrie du cinéma également tout à l'heure dans le rendez-vous découverte.
Hubert Reeves, ce serait quoi votre définition à vous du bilan carbone?
Exactement ça, c'est-à-dire que la quantité de gaz carbonique qui résulte de toutes les phases de la construction d'un projet. Par exemple, une voiture, combien, pour chaque voiture, combien de CO2, de gaz carbonique, a-t-on émis avec tous les facteurs externalisés ou non, mais en considérant tous. Et sachant qu'il reste sur la planète une quantité de carbone et que si on la rejette tout, on va probablement augmenter d'au moins 3 degrés. Donc, une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est de garder le pétrole et le charbon dans la Terre.
Toutes ces énergies fossiles, évidemment, dont on parle beaucoup en ce moment. Et ben, toutes ces idées pour les capturer, justement, pour celles qui sont déjà sorties du fin fond de la Terre, Hubert Reeves.
Des projets aussi pour les restocker, mais pour l'instant, ce n'est pas glorieux.
Allez, on discute ensemble dans un instant avec les auditeurs. Ils sont là, ils vous attendent au 01 45 24 7000. Vous êtes notre invité, Hubert Reeves.
Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blan. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi meu primeiro amor. Até hoje eu danço esse calor. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Até hoje eu danço esse calor.
de um nordestino pobre
e uma menina classe média assim.
Juntar os trapos, romper as barreiras
de um país que ainda pensa assim. Hoje moramos na cidade grande, mas nossa casa é do interior. E os nossos filhos cada vez mais lindos. Foi, foi, foi. Foi meu primeiro amor. Foi, foi, foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi, foi, foi. Foi meu primeiro amor. Foi, foi, foi. E até hoje eu danço esse calor.
Si vous aimez comme nous ce titre, c'est Lucas Santana à l'instant.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Je crois qu'il y a dans tout ce processus d'agression qui se développe magnifiquement actuellement vis-à-vis des écosystèmes et de la vie sur la Terre, ce saccage de la planète, je crois que c'est une très grande imprudence, parce que nous ne connaissons pas les incidences à long terme des erreurs ou des bêtises que nous commettons actuellement.
Voilà, Hubert Reeves, c'était la voix de Théodore Monod.
Théodore Monod,
en 1974, merci. Auquel vous avez succédé d'ailleurs à la tête de la Ligue Rock, hein, pour la préservation de la faune sauvage. L'association maintenant porte le nom d'Humanité et Biodiversité. Et vous êtes aujourd'hui justement le président d'honneur, hein, de cette association. Donc 1974, Théodore Monod tenait ses propos sur l'environnement. Et il y en a eu beaucoup d'autres avec lui, hein. Il y a eu le commandant Cousteau, il y a eu... Déjà à l'époque finalement, dans les années 70, hein, il y avait ces messages d'alerte.
Monsieur Dumont, en particulier, qui a été un facteur important. Un aspect intéressant, c'est le rôle des banques. Maintenant, les banques
interviennent. Ah oui, on en parlait lundi,
Interviennent directement. Moi, j'ai été invité par la Banque de France pendant l'été pour faire une conférence sur la situation. Et il y a quelque chose qui est très positif, c'est ce qui s'appelle le désinvestissement. Le désinvestissement, c'est le fait que les grandes universités américaines, anglaises, norvégiennes, aujourd'hui, retirent leurs fonds de pension de l'industrie pétrolifère.
Oui.
Et ça, c'est venu par le fait qu'une compagnie aux États-Unis a invité des étudiants à venir visiter leur puits. Et les étudiants se sont révoltés et ils ont mis la pression sur leur université pour qu'on retire ces argents. Stanford maintenant est très actif dans cela.
On parlait de la finance responsable lundi justement dans le dossier de l'émission et on a vu à quel point c'était un levier extrêmement important de choisir la bonne banque et les bons placements. Oui. Manuel est en ligne pour dialoguer avec vous, Hubert Reeves. Bonjour Manuel.
Bonjour.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Bonjour à vous France Inter, merci de m'accueillir, c'est super. Juste un petit clin d'œil au carnet de campagne qui est vraiment une super émission.
Super, voilà. Philippe Bertrand lui transmet le message.
Voilà, j'ai une question simple à poser à Monsieur Hubert Reeves. C'est vrai que c'est une question plutôt orientée politique. Et du coup, elle est la suivante. Est-ce que vous pensez que le slogan « Paix pour le climat, guerre au capital » résume plutôt bien la situation ou pas du tout?
Voilà. Non, c'est un peu trop fort et trop faible en même temps. Je crois que ça ne donnera rien. L'idée de dire guerre au capital, je ne sais pas qui va faire la guerre au capital. Tout le monde a besoin de son chèque de salaire à la fin du mois. C'est plus subtil que ça, la situation. Il faut éviter ces idées simples. Il faut éviter ces idées carrées qui sont paix, guerre, non. Mais il faut avoir, c'est une attitude qu'il faut avoir concrète dans des gestes précis. Comme par exemple ce désinvestissement dont on parle. Mm-hmm. Ces grands mots comme ça ne donnent rien. Non, je ne suis pas convaincu du tout de l'efficacité d'un tel slogan.
Alors justement, en parlant des gestes, des petits gestes, un auditeur, Michel, nous dit que dans une émission de France Inter il y a peu, un invité a démoli la théorie du colibri. Qu'en pensez-vous de cette théorie du colibri?
Je crois même que c'était dans la Terre au carré, figurez-vous.
Mais je ne sais pas qui c'est, j'étais en train de chercher justement.
Vous deviez être à Monaco, c'est pour ça que...
Oui, parce que ça me dit rien.
Je crois qu'il ne faut pas la démolir. Je dirais, ce n'est pas suffisant tel quel, mais tous les gestes sont indispensables aujourd'hui, même les petits gestes. C'est à condition qu'il y ait cet accord de tout le monde que tous les gestes sont importants. S'il y a que le colibri, c'est pas sûr, mais démolir le colibri, c'est pas, je crois que c'est pas une attitude positive.
Vous, par exemple, vous avez arrêté de manger de la viande, vous prenez plus de bains.
Justement, il prend des bains chauds, Ibérise. Ah, il se confie dans ce livre sur son amour des bains chauds.
Oui. Oui, oui.
C'est votre péché, alors?
Oui, dans un sens. Non, je ne prends presque plus de bain maintenant, mais oui, j'en prends quelques fois. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut juger au cas par cas. Il ne faut pas dire pas de bain, pas de ci, c'est... Il faut pas rester chez soi, dire on ne prend plus l'avion. Il faut dire est-ce que j'ai besoin, est-ce que ce vol est important. Si c'est pour faire des shopping à New York, ou bien si c'est pour participer à une action pour l'environnement, c'est pas la même chose. Il faut surtout se servir de sa tête et il faut se méfier des slogans et des attitudes simplistes. C'est pas avec des attitudes simplistes qu'on va...
Ça secoue avec Uber Eats, hein, finalement, hein, ouais, par rapport au discours habituel. Jean-Louis est avec nous en ligne aujourd'hui. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour.
On vous écoute et bienvenue dans la Terre au Carré.
Eh bien, je vous remercie, bonjour. Voilà, moi j'ai sous les yeux le livre de René Dumont, enfin livre relatif à sa campagne pour les élections présidentielles de 1974. Et ce livre était intitulé « À vous de choisir, l'écologie ou la mort », donc la campagne de René Dumont pour des objectifs de l'écologie politique. Et malheureusement, je crains qu'entre les deux options, l'écologie ou la mort, depuis 1974, on a plutôt fait preuve de s'orienter vers la deuxième option, et moi je suis très pessimiste. Je sens pas chez les hommes politiques, chez les décideurs en général, les gros industriels, la finance, une volonté réelle de changer les choses. Je pense que on parle beaucoup, mais on refuse de passer aux actes réellement. Et voilà ce qui alimente mon pessimisme.
Oui, vous avez raison d'être inquiet, mais ceci de dire l'écologie ou la mort, ça aussi c'est un peu simpliste. Il est possible qu'on ait l'écologie et qu'on n'ait pas la mort. Personne ne connaît l'avenir. Encore une fois, il faut voir la situation comme une lutte majeure entre des forces de restauration et des forces de détérioration. Et c'est une lutte. Ce que sera cette planète dans 30 ans, personne ne le sait.
Hubert Reeves, la semaine prochaine, à votre place, je vais recevoir l'ancien ministre de l'Environnement, Yves Cochet. Il vient d'écrire un livre et selon lui, l'effondrement de la Terre, c'est pour très bientôt, c'est pour 2030 hein, à peu près. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Yves Cochet? On passera votre intervention la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire
à ce sujet-là? Je me méfie des prédictions. Les êtres humains sont notablement incapables de prédire correctement ce qui va se passer. C'est un des points les plus difficiles. L'avenir n'est pas déterminé. L'avenir, est-ce qu'on le fera? Et il est possible que l'avenir, dans 30 ans, soit au contraire très positif. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis, je me méfie des prédictions. Je veux considérer les menaces, mais personne ne sait qu'est-ce qui va se passer. Et là, je cite aussi Edgar Morin qui défend ce point de vue et qui fait remarquer que dans les années 30, pour une jeune personne, l'avenir semblait bloqué. Il y avait le nazisme et le communisme. Qu'est-ce que vous pouviez prendre entre les deux? Aujourd'hui, le nazisme et le communisme ne sont plus des problèmes. L'avenir n'a pas été celle qu'on jugeait, qu'on pensait devoir arriver. Et c'est ça l'important. L'avenir est inconnu. Il sera ce qu'on le fait. Et l'important, c'est la puissance des énergies pour essayer de faire qu'il soit ce qu'il faut.
Allez, on va accueillir Johan, ce sera notre dernier auditeur. Il nous reste très peu de temps. Bonjour Johan, on écoute votre question pour Hubert Reeves. Bienvenue à vous.
Oui, merci. Bonjour. Bonjour France Inter. Bonjour Monsieur Reeves. Je voulais rebondir sur le reportage précédent concernant votre interlocuteur de Carbon 4 qui précisait qu'il faudrait réduire son empreinte carbone par 6 à l'horizon 2050. Et je voulais savoir ce que vous pensez du fait que notre empreinte carbone est liée à notre niveau de vie et que réduire son empreinte carbone par 6, c'est éventuellement réduire son niveau de vie d'autant. Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Je crois que ça, c'est vrai. Je crois que la vie est possible, mais elle sera beaucoup plus austère. Il est évident qu'on n'ira pas en New York ou en Chine pour un oui ou pour un non. Mais la vie peut être vivable, même si elle est austère.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Johan. Hubert Reeves, France Inter va lancer un nouveau cycle de conférences qui s'appelle « Demain, notre planète ». Ce sera à la Maison de la Radio, dans une centaine de salles de cinéma en France. Et vous serez notre premier invité avec l'astrophysicien Aurélien Barraud. Il y aura également à vos côtés la philosophe Cynthia Fleury et la juriste Valérie Cabanet. Ce sera le jeudi 21 novembre pour une première conférence sur le thème de « Changer », justement. Comment se mettre en mouvement pour engager une transition durable ? La billetterie est ouverte dès aujourd'hui pour inviter le public à nous rejoindre donc ensemble le 21 novembre. Ce sera au studio 104 et dans une centaine de cinémas en France. Pour réserver les places, eh bien, c'est franceinter.fr. Vous trouverez eh bien, de quoi justement nous rejoindre en allant sur le site de La Terre au Carré. Merci beaucoup Hubert Reeves d'être venu aujourd'hui. On se retrouve donc le 21 novembre. Et en attendant, on peut lire Je chemine avec. C'est paru aux éditions du Seuil. On chemine avec vous.
Et on reste optimiste.
Absolument. Merci beaucoup.
La Terre au carré.
Et au menu de cette nouvelle demi-heure, le dernier reportage de la série consacrée aux villes zéro carbone. Nous serons au Menay, dans les Côtes d'Armor, une commune qui tente d'être autonome en énergie grâce, entre autres, aux éoliennes. Et puis notre invité découverte est Mathieu Delahousse, le cofondateur de Sequoia. C'est une société de conseil et d'accompagnement de projets éco-responsables pour les tournages de films et les séries télé. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète, et nous sommes en ligne avec Agnès. Bonjour.
Bonjour France Inter, bonjour à tous.
Bonjour Agnès.
Bonjour.
Est-ce que tout va bien dans ma chère et tendre ville de Nantes ?
Ah, merveilleusement bien à Nantes.
Bon, vous êtes directrice de l'association BIS, ça veut dire quoi exactement ?
Alors, BIS, c'est Bolivia Inti Suite Soleil. Donc, on est une ONG qui travaille sur la cuisson écologique.
Et alors, comment vous avez eu cette idée assez géniale ? On va le voir d'ailleurs dans un instant avec vous.
Alors, l'idée est née en Bolivie. C'est Robert Chiron, en fait, le fondateur de l'ONG, qui, au détour d'un de ses voyages en Bolivie, s'est retrouvé en panne de combustible et a aussi constaté, en fait, la pénibilité de la corvée de bois pour les femmes pour cuisiner. Et donc, comme c'était un militant engagé, écolo, géotrouve-tout, il a construit un cuiseur solaire de fortune pour assurer la préparation du repas. Et l'aventure est née à ce moment-là. Et petit à petit, on a développé des projets en Bolivie, au Pérou, au Chili, en Argentine et puis en Afrique. Et maintenant, c'est 1000 adhérents qui nous suivent dans cette aventure.
Parce que donc, même la cuisson fait du mal à la planète.
Effectivement, on a un constat qui est alarmant, qui est assez peu connu. Et on milite aussi pour faire connaître ce constat, puisque effectivement... c'est à l'aube de 2020, c'est encore 3 milliards de personnes qui cuisinent à base de biomasse, de bois, déchets végétaux, bouses de vache. Et cette population en fait passe aussi énormément de temps en fait à collecter ce bois, c'est ce combustible. Donc c'est dans certains pays c'est jusqu'à 20 heures par jour, et notamment pour les femmes, les fillettes. Mmh. Donc ce qui entrave aussi leur capacité à développer d'autres activités, s'occuper d'elles. Il y a également un impact important au niveau sanitaire, puisque selon l'OMS, en fait, chaque année, c'est 4 millions de personnes qui meurent en fait des fumées toxiques de cuisson. Parce qu'en fait, les femmes cuisinent sur des foyers ouverts, donc en gros, c'est des foyers trois pierres, une gamelle, et qui sont fortement émetteurs de pollution. Donc des particules fines qui s'introduisent dans les poumons, produisent des maladies cardiovasculaires, des yeux. Et il y a également aussi l'impact des émissions de CO2 et qui influe sur le changement climatique.
Alors vous, votre travail justement avec l'association Agnès, c'est de pouvoir diffuser ces outils de cuisson écologiques pour les familles les plus vulnérables, donc dans les pays du Sud, et puis même en France, hein, vous faites le travail aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc on a différents axes pour nos actions. Donc on travaille à la fois à l'international. Donc en Amérique latine, on travaille sur la diffusion de la cuisson solaire avec nos partenaires, puisqu'elle est propice en fait aux habitudes alimentaires, mais également au climat, puisque sur les hauts plateaux andins, on est à plus de 300 jours d'ensoleillement par an. Mmh. Et du coup, le dieu soleil aussi, Inti, est très important dans la culture andine. Donc c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Les femmes construisent elles-mêmes leurs cuiseurs solaires, elles apprennent à les entretenir, à les réparer. Elles ont aussi un suivi et des conseils nutritionnels. Et on travaille aussi en Afrique sur un autre type d'outil, qui est le cuiseur à bois économe, qu'on diffuse avec nos partenaires en créant des filières de fabrication et de vente. Mmh. Et cet outil, en fait, lui permet une réduction de la consommation de 50 à 80% du combustible du bois. Également en France. Donc en France, on est aussi heureux de pouvoir agir pour sensibiliser sur la protection de l'environnement. Donc on utilise la cuisson écologique, mais ça nous amène à parler des changements climatiques, de la lutte contre la déforestation, de nos émissions de CO2. Et donc on fait des animations, des sensibilisations, donc soit auprès du grand public, soit auprès des scolaires. Et on est toujours ravis de voir s'émerveiller les gens, de voir un gâteau, un poulet qui cuit dans un four solaire, quoi. C'est vraiment montrer qu'il y a des alternatives possibles et que la transition peut se mettre en marche avec des solutions simples.
Et Agnès, on peut l'utiliser même si on manque un peu de soleil, parce que nous, on n'a pas autant de soleil que chez les Péruviens là, sur la cordillère, hein.
Oui, alors oui, on peut, effectivement, on va être limité quand il n'y a pas de soleil, on peut pas l'utiliser, mais même quand il neige, s'il n'y a pas de couvert nuageux, eh ben, on peut utiliser son cuiseur solaire.
On peut faire une raclette au cuiseur solaire, tiens.
Tout de suite. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une super idée. Agnès, parce qu'il nous manque du temps, évidemment, pour discuter un peu plus avec vous, mais en tout cas, on peut peut-être renvoyer nos auditeurs sur le site internet de l'association. On aura tous les détails.
Oui, tout à fait, vous avez tous les détails. Donc on organise aussi des stages et des ateliers si vous voulez venir construire votre cuiseur solaire. Mmh. On a également lancé aujourd'hui une campagne en fait de crowdfunding pour créer un réseau d'ambassadrices de la cuisson solaire en Bolivie, des femmes qui seront formées, équipées, qui vont diffuser dans des zones isolées la cuisson solaire. Et effectivement, n'hésitez pas à venir voir nos actions puisque on a des impacts il y a des impacts de la cuisson qui sont très importants et qu'on a envie de partager avec vous. Donc,
alors, c'est le site bolivianti-sudsoleil.org. Le plus simple, c'est d'aller sur le site de la Terre au Carré. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous saurez tout sur les activités d'Agnès et de son association BIS. Merci Agnès d'être passée dans l'émission.
Merci à
bientôt.
Vous, c'est un plaisir.
Bonne journée, au revoir. À 14h10, dernier reportage de la semaine. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Suite de votre série sur ces territoires qui tentent à tout prix de réduire leurs émissions de carbone. Aujourd'hui, on reste dans le pays du Menet, une commune rurale des Côtes d'Armor, pionnière sur le sujet, avec des Bretons qui tentent depuis 10 ans d'être autonomes en énergie. Et ils y sont presque, notamment grâce aux éoliennes.
Oui, il y a plusieurs champs d'éoliennes dans cette commune bretonne de 6000 habitants. On les voit de loin quand il n'y a pas trop de nuages. Et ces éoliennes sont un peu spéciales, car elles sont participatives. Elles appartiennent aux habitants eux-mêmes. Ce sont eux qui ont investi pour participer à cette transition énergétique. 150 sociétaires ont investi plus d'1 million d'euros. Pour eux, c'est plus intéressant de miser sur ces énergies renouvelables que de placer son argent sur un livret A. Et surtout, c'est bon pour la planète. Rencontre avec Roland Morin, un habitant du village de Plessala, très engagé dans la gestion de ces éoliennes, et Michel Ulmer, maire de Langourla.
On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On trouvait bizarre qu'à Bel Air, il y avait un champ éolien qui appartenait à des fonds de pension américains. Alors nous, dans le Menet, on n'est pas prêts à se laisser faire. On s'est dit, nous, on participera aussi. Et donc c'est comme ça que ça a démarré en 2007-2008. Au niveau national et au niveau européen, on a été reconnus et on sert de commune témoin.
Bon, alors on va aller les voir, ces éoliennes.
Dans le Menet, on est sous les hauteurs, la crête de séparation des eaux de Manche-Océan. Notre richesse, c'est le vent.
On l'entend, là.
On entend. Donc, ça, c'est notre ressource. On a 7 éoliennes d'une puissance de 800 kW. Nous sommes, dans le premier champ éolien, 153 sociétaires. Moi, je suis Roland Morin, retraité. Je suis déjà gérant d'une cigale, d'un groupe d'investisseurs.
Vous, par exemple, vous avez investi combien ?
J'ai mis 9000 euros pour mes petits-enfants, parce que pas pour moi. J'ai passé l'âge d'investir. On n'a pas investi pour spéculer. Dans chaque groupe d'investisseurs, le plus gros investisseur ne peut pas mettre plus de 4 fois le plus petit. Et il ne compte qu'une voix. C'est-à-dire que les gens qui ont investi ont un retour sur 10 ans du capital. Donc les 10 ans après, ce ne sont plus que des dividendes.
Et vous avez investi aussi ?
J'ai investi dans le nouveau parc, pas dans l'autre, puisque je me suis pris un peu trop tard. Dans le nouveau parc, pareil, c'est pour mon fils, ce ne sera pas pour moi. Et donc moi j'ai investi 10 000 euros. On fait vivre le territoire aussi. Je suis donc Michel Ulmer, maire délégué de la commune de Langourla et adjoint à la commune Le Menet.
Oui, parce qu'un champ éolien comme notre premier, là, il rapporte, je crois, entre 30 et 40 000 euros de taxes à la commune. Donc c'est bon à prendre.
Et vous, chez vous, vous me disiez aussi que vous avez aussi du solaire.
Les élus se sont très investis dans les énergies renouvelables, mais surtout de convaincre la population. de faire des économies. On voit qu'en Allemagne, dans les pays nordiques, ils ont des panneaux solaires, chauffe-eau solaire. Ben, moi, je l'ai fait et j'économise entre 500 et 800 litres de fuel par an.
Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus pour que le territoire soit encore plus à énergie positive? Il y a déjà les éoliennes, il y a déjà un peu de solaire, il y a déjà la méthanisation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre
Sur la commune de Langola, nous avons un hangar de stockage de copeaux de bois pour les 5 chaudières qui sont sur le territoire, sur la commune actuelle du Menet. Ce hangar, qui est assez vaste, a également des cellules photovoltaïques de 100 mètres carrés sur son toit, plein sud, qui produit donc effectivement de l'énergie, qui est transformée, enfin, l'énergie solaire qui est transformée en électricité que nous revendons sur le réseau EDF. Il y a 5 chaudières communales qui chauffent les mairies, les particuliers également. Il y a des compteurs individuels qui chauffent des particuliers, qui chauffent des mairies, qui chauffent des bâtiments communaux, des écoles, des fêtes. On réfléchit également sur une possibilité de faire du stockage d'électricité. Ouais. On produit grosso modo 90% de la consommation du territoire. C'est déjà pas mal, maintenant on espère arriver à 100% dans les années 2025. L'objectif, c'est ça, c'est d'arriver à être totalement autonome en 2025.
Mais pour arriver à 90%, vous avez mis combien d'années?
Il faut compter 10-12 ans, parce que le temps que tous les projets se montent et que ça avance, et puis il faut quand même convaincre les gens, et même parmi les élus, tout le monde n'est pas forcément convaincu. Il faudrait qu'une majorité se dégage.
Là, maintenant, on roule pour 20 ans, quoi.
Et vous, en tant qu'élu, qu'est-ce que vous vous dites sur cette énergie positive? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est possible? Vous, vous y êtes déjà, quasiment?
Ça oblige forcément à prendre, à faire des efforts et à faire des choix politiques, principalement. Il faut que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde. Dans ce nouveau parc éolien qui est en projet actuellement, dont le permis de construire va être déposé au mois de novembre, la commune de Menet a investi également des fonds collectifs, avec la commune de Lournan également. Donc les élus y croient. Et certains élus voulaient mettre même plus, on a mis une certaine somme, et certains élus voulaient même qu'on en mette le double. Mais bon, il faut être raisonnable, ce sont des deniers publics, mais néanmoins des deniers publics qui rapporteront de l'argent à la commune sous un délai de 25 ans en moyenne.
C'est une fierté?
C'est une certaine fierté, bien sûr. C'est davantage reconnu en dehors de nos murs que par les habitants de la commune. C'est 90% d'autonomie, entre guillemets. L'ensemble du Menet est relativement pionnier pour l'ensemble des économies d'énergie, effectivement.
Voilà Célia pour ce premier territoire à énergie positive. Et depuis, est-ce qu'il y en a eu d'autres d'ailleurs?
Oui, les territoires de ce type se développent depuis 10 ans. Il y en a désormais plus de 200 et parmi eux, certains visent 100% d'énergie renouvelable. C'est le cas de l'île d'Oléron ou de la communauté de communes des Monts du Lyonnais. L'État investit d'ailleurs près de 500 millions d'euros par an pour ces territoires. Et dans un an, tous ces territoires se retrouveront en Bretagne, dans ce pays du Menet, pour présenter leur bilan en matière énergétique.
Et nous serons là au rendez-vous, évidemment. Merci beaucoup Célia Quiret. Votre série de reportages est à réécouter en intégralité sur franceinter.fr. Camille, dans un instant, l'invité découverte va faire comme vous. Il va nous parler des tournages des films qui se mettent au vert.
Ah, mais très bien.
Voilà, la transition écologique sur les plateaux.
C'est partout.
Absolument. On en parle dans un instant avec Mathieu Delahousse et juste après, l'épée. Bon après-midi avec La Terre au Carré.
Tu vas.
C'était l'épée avec Springfield, 61. On passe par ici.
C'est pas Bruce Springsteen. Carré.
Mathieu Vidard. Bonjour Mathieu Delahousse.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président et cofondateur de Sequoia. C'est une société de conseil et d'accompagnement de projets éco-responsables. Alors c'est pour parler aujourd'hui avec vous des tournages de films, de publicités, de séries télévisées qui sont elles aussi en transition alors ?
Tout à fait. Il y a un grand sujet actuellement auprès de toutes les industries et l'industrie audiovisuelle n'échappe pas à la règle de que pouvons-nous faire pour changer notre bilan carbone.
Vous êtes régisseur, vous, à la base, c'est ça ?
Je suis initialement, oui, je suis régisseur depuis 20 ans et j'ai décidé d'agir à mon niveau dans le domaine que j'affectionne particulièrement.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée alors de le faire ?
L'idée de voir que le sujet était de plus en plus présent partout et pas dans mon domaine d'activité et donc de me dire c'est à moi peut-être d'agir dans ce domaine.
Et parce que ça pollue beaucoup un tournage, que ce soit une série, une pub ou un film hein.
Alors tous les tournages ne sont forcément pas équivalents, c'est bien ce qui fait la spécificité de ce domaine d'activité, c'est que chaque tournage est spécifique, mais entre la construction des décors, le déplacement des équipes, éventuellement des personnes, pour une publicité des mannequins qui viennent du bout du monde, ça peut en effet vite avoir des impacts assez lourds.
Alors il y a des chiffres hein, très très précis, justement Camille parlait tout à l'heure du bilan carbone, et bien on peut faire celui du secteur audiovisuel français, il y a des chiffres très précis, vous les avez ?
Tout à fait, tout à fait. Vous avez cité ce matin
dans l'édito carré,
tout à fait une partie de chiffres. Ces chiffres aujourd'hui sont même plus vraiment d'actualité parce qu'on parle d'une étude qui date de 2011. Mmh. Je sais que EcoProd est en train actuellement de faire une nouvelle étude pour pouvoir remettre ces chiffres à jour, oui. Parce qu'entre 2011 et 2018, ces données ont énormément changé. Mais en effet, on parle de plusieurs millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc c'est énorme. Et la particularité, c'est que ça parle de CO2, mais pas du gaspillage. Réellement, ce sont deux choses un petit peu distinctes, mais importantes.
C'est-à-dire qu'on met les décors à la poubelle, c'est ça dont vous parlez quand vous dites du gaspillage ?
Oui, c'est-à-dire qu'un impact carbone, par exemple un trajet de comédien en avion, va avoir un gros impact carbone. Le bois des décors et les bouteilles en plastique et ses consommations vont avoir un moindre impact carbone, mais vont avoir un impact écologique en tant que déchet.
Ça veut dire que Catherine Deneuve va devoir prendre un Vélib maintenant pour aller sur son lieu de tournage ?
Mais je crois qu'elle le fait déjà.
C'est vrai. Bon, alors comment ça se passe ? Parce que moi, en regardant un petit peu la documentation, on s'aperçoit que les anglo-saxons étaient un peu précurseurs quand même en la matière. Hollywood, par exemple, qui est largement concerné. Alors là, c'est pareil, on apprend des choses assez hallucinantes sur l'impact carbone de l'industrie hollywoodienne par rapport même au pétrole.
Oui, c'est les chiffres sont étonnants et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas estimer et à ne pas pouvoir se rendre compte de ce que cela représente. Et aujourd'hui, beaucoup d'industries et parfois les plus importantes, comme l'industrie hollywoodienne, se sont penchées sur la question et ont commencé à mettre en place des mesures.
Il y a des films qui sont plus pollueurs que d'autres. Vous avez des noms de films à nous donner ?
Alors, l'idée avec Sequoia, c'est d'être plutôt dans la mise en avant de ceux qui font bien.
Oui, mais pas autant du parler tout des deux.
Mais
par
définition, tous les films qui sont les plus gros films de cascade, les plus gros films à grand spectacle, sont forcément des films qui ont le plus gros impact. À côté de ça, il y a des grosses industries. Je sais que Sony, pour le film de Spider-Man, a mis en place un système qui s'appelle Sony for Greener World, où ils ont planté des arbres à chaque jour de tournage, etc. Donc parfois, le bilan n'est pas forcément le pire par rapport à ce tournage. Il y a bien un derrière les choses qu'il est important d'aller regarder.
Alors James Bond, 007 Spectre par exemple, 30 millions d'euros de voitures, dont 7 millions d'Aston Martin, fabriqués spécialement pour le film, des avions qui se fracassent dans la montagne, des randonneurs dans la neige artificielle, des amoureux qui s'embrassent sous la pluie artificielle, et ça n'est pas tout, hein, tous les grands films, Le Seigneur des Anneaux par exemple aussi, c'est des dizaines, des centaines de sites de tournage différents, donc tout ça évidemment c'est très polluant.
Tout à fait. Après, c'est aussi ce qui fait la magie. Moment, nous ne sommes pas là pour dire qu'il ne faut plus faire de cinéma, parce que ça fait rêver. Les Amants du Pont Neuf, c'était un décor phénoménal qui est aussi aujourd'hui encore légendaire. Donc l'idée est bien de comment on accompagne cette démarche, comment on fait en sorte de mettre en place des matériaux bien sourcés et un réemploi derrière, comment on travaille localement. Nous, c'est vraiment la base de notre travail, c'est d'accompagner cette démarche et non pas de l'empêcher.
Donc vous faites quoi ? Vous les conseillez ? Vous allez sur place ? Ils sont réceptifs déjà ? Ils sont demandeurs, tous les industriels du cinéma, par rapport à ça ? C'est pour leur réputation, non ?
Il y a deux questions dans cette question. Alors, est-ce qu'ils sont réceptifs ? C'est une grande partie de notre démarche aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, il y a un intérêt économique. Aujourd'hui, l'écologie, c'est un marché. Il y a plein de nouvelles sociétés, plein d'associations, plein d'activités qui permettent aujourd'hui d'apporter des solutions. Et vraiment, nous, notre travail chez Sequoia, c'est bien d'aller chercher ces solutions pour les mettre en avant. Donc on cherche vraiment, on a ce travail de sourcing qui est très important. Et avec ce travail de sourcing, derrière, on peut aller voir les chaînes, les producteurs, etc., leur expliquer que c'est économiquement viable et leur expliquer qu'en termes d'image et en termes d'impact médiatique, parce qu'on sensibilise le public, ça a un impact qui dépasse de loin la simple frontière du tournage et du studio.
Et vous dites qu'il y a des partenaires aujourd'hui qui sont réellement intéressés par le fait d'investir aussi dans l'industrie du cinéma parce que justement elle porte des valeurs environnementales.
Aujourd'hui, on a réussi à mettre en place sur certains tournages des intérêts financiers avec des marques qui étaient beaucoup plus intéressées par la démarche philanthropique en quelque sorte de cet engagement que par le sujet. Lui-même. Si on prend l'idée de Baron Noir, par exemple, l'engagement de Baron Noir n'est pas du tout lié au sujet de la série, mais bien un engagement de la production.
On va en écouter justement un extrait, c'est diffusé sur Canal+.
Mais la grande surprise, et sans conteste, l'absence totale des Verts. Aucun écologiste ne fait partie du dispositif gouvernemental. C'est vraiment le premier événement politique du quinquennat de Francis Laugier. Direction l'Élysée, où nous avons...
Philippe, la campagne pour les législatives a commencé là, alors arrête de croire que t'es son unique obsession.
Moi, un tueur avec sa proie. Laugier est prêt à tout, dans sa tête.
Il n'aurait pas mis de verre au gouvernement dans le seul but de t'éliminer politiquement?
Tu veux pas comprendre, Véro. L'enjeu, c'est pas seulement la circon, c'est surtout le parti.
Voilà, extrait de la saison 1 avec Admera, Baron Noir donc sur Canal+. Donc ça fait partie justement des séries qui font des efforts.
Ça, c'est une série qu'on accompagne depuis le mois de mai, sur laquelle on a apporté plein de recommandations. On a un éco-assistant en permanence.
Alors lesquels, par exemple, donnez-nous des exemples concrets.
Alors déjà, on a essayé d'avoir une action très concrète sur toute la réduction du plastique, de l'usage unique, de la vaisselle à usage unique, etc. sur le tournage. Donc on a un éco-assistant qui est présent tous les jours, qui est là pour permettre l'utilisation correcte des poubelles de tri, des gobelets, des gourdes. Parce que quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, changer des habitudes, il faut que ça s'accompagne. Pour que ça soit pérenne sur le long terme, il faut accompagner cette démarche, l'expliquer, la justifier et après montrer les résultats. Donc on donne des bilans au fur et à mesure du tournage pour accompagner les personnes et leur dire, vous voyez, grâce à la gourde sur le tournage, c'est 21 000 bouteilles d'eau qui n'ont pas été consommées. C'est plus de 15 000 petits gobelets qui n'ont pas été utilisés, donc jetés.
Mais ça a du poids dans vraiment l'empreinte carbone d'un tournage, parce que c'est énorme, c'est ultra énergivore, il y a des éclairages qui sont monstrueusement consommateurs d'énergie par exemple, et là on est bien au-delà des verres en plastique, hein.
On est sur une théorie du petit pas, c'est-à-dire qu'on commence par mettre le pied dans la porte et après, au fur et à mesure, en sensibilisant les gens, d'un coup, les gens viennent vers nous et les gens nous posent des questions et cherchent des solutions. Et c'est là qu'on arrive à changer les choses, c'est quand les gens vont demander des solutions et pas quand on les impose.
Mais vous, vos conseils concernent tous les ventailles, c'est-à-dire ça va des gobelets plastiques, comme vous disiez, jusqu'à peut-être effectivement l'éclairage. Vous allez peut-être vous immiscer même dans le scénario, ça peut arriver?
Exactement, on peut aller conseiller dans un scénario d'aller plutôt faire qu'un comédien fait un Rouen-Paris, un Toulouse-Paris. En train plutôt qu'en avion. Dans le film de Nicolas Vanier sur Poli, à un moment, on a pris le choix de changer la fabrication d'une scène. Et plutôt que d'utiliser un hélicoptère dans une zone sensible et naturelle, on a tourné sans l'hélicoptère, juste avec des ventilateurs. On allait filmer l'hélicoptère dans un aérodrome et on a mélangé les deux images de façon à préserver la nature.
D'ailleurs, le prochain James Bond se fera en Poitou-Charentes. On peut déjà l'annoncer.
À vélo, pas de cascade de voiture.
Dans la terre au carré. Non, mais les producteurs, ils y sont très sensibles quand même. Ils sont très demandeurs aujourd'hui. Est-ce que les acteurs eux-mêmes, les stars dans les films font un effort là-dessus ou c'est encore quand même assez difficile?
Alors on est dans le balbutiement, c'est en train de changer énormément. En l'espace d'un an, on a vu un changement phénoménal. On accompagne le Festival de la Fiction de La Rochelle qui a fait son ouverture en parlant des co-responsabilités, en parlant de l'importance de s'impliquer dans les co-responsabilités. Et aujourd'hui justement, on appelle à tous les producteurs, à tous les réalisateurs et à toutes les personnes engagées de lancer le message et de montrer l'exemple, parce que plus il y aura d'exemples, plus les gens suivront l'exemple.
Bien, vous pourriez aller sur un tournage, Camille, ce serait intéressant
serait
de nous faire
un
petit sujet pour
portes.
Voir comment ça s'y passe.
On vous accueille avec grand plaisir.
Allez.
Merci beaucoup Mathieu Delahousse, donc président et cofondateur de Sequoia, cette société de conseil d'accompagnement de projets et co-responsable donc en particulier sur les tournages mais également les publicités et les émissions de télévision. Merci à Denis Delbecq, à la rédaction en chef de cette Terre au Carré, Chantal Le Montagnier, Lucie Sarfati, Irène Menahem pour la préparation des dossiers et Thierry Dupin pour la programmation musicale.